à la découverte du ciel, une émission proposée et présentée par Alain sur la Voix du Béarn 95.10.
À la découverte du ciel, à la découverte de l'univers. Les amis, bonjour, oui, c'est Alain. Aujourd'hui, notre émission d'astronomie est consacrée à Gaïa. Gaïa, le télescope spatial qui est dédié à l'astrométrie. On va voir tout ça dans un instant avec notre invité, mais on commence par l'actualité. L'actu aujourd'hui, c'est le CNES qui signe un accord avec son homologue japonais pour préparer une mission destinée à aller sur Phobos et ramener des échantillons sur Terre. Phobos, c'est l'un des deux petits satellites de Mars. L'autre, c'est Deimos. L'horizon, 2025. Les ondes gravitationnelles. Depuis la remise en route à la fin de l'année dernière des deux observatoires LIGO aux États-Unis, avec des détecteurs dont la précision était bien améliorée, eh bien, ces deux observatoires ont identifié deux nouveaux signaux qui pourraient trahir le passage d'une onde gravitationnelle. Bien sûr, il y a des analyses très approfondies qui sont en cours avant d'annoncer des résultats. Le troisième observatoire, qui est situé en Italie, près de Pise, alors lui, il s'active pour finaliser la mise à niveau de ses détecteurs et reprend des observations. Ce qui fait qu'avec trois détecteurs, on pourrait mieux localiser les sources de ces ondes gravitationnelles. La sonde Cassini. Elle est en orbite autour de Saturne et de ses lunes depuis 2004. Elle va terminer sa mission le 15 septembre. Ah oui, elle n'a plus de carburant. Alors, les opérateurs vont l'envoyer plonger dans l'atmosphère de Saturne. Elle aura fait 293 orbites. Et puis, elle aura visité tous les satellites importants de Saturne. Cette sonde, Cassini, elle va disparaître à jamais. Mais la mission n'est pas terminée pour autant parce qu'il reste beaucoup de travail pour interpréter tous les résultats qu'elle aura amassés au cours de ses 13 ans. Cassini aura rempli tous ses objectifs scientifiques et même au-delà. Et puis, le 21 août, éclipse totale de soleil. Alors la zone de centralité, là où il fait nuit en plein jour, elle traverse la totalité des États-Unis depuis le nord-ouest jusqu'à la Floride. Ça sera impossible de l'avoir en Europe, bien sûr. Mais on vous racontera tout ça. Voilà pour aujourd'hui. Les amis, c'est maintenant le moment de retrouver notre invité. Notre invité aujourd'hui, c'est Benjamin Massard. Benjamin, bonjour.
Bonjour.
Benjamin Massard, il va nous parler aujourd'hui d'astrométrie, et plus particulièrement d'un satellite dédié uniquement à l'astrométrie, satellite qui s'appelle Gaïa, auquel tu as participé à la conception. Mais, Benjamin, qu'est-ce qu'on entend exactement par astrométrie ?
Par astrométrie, c'est la science qui permet de mesurer la position, et même parfois plus que la position, aussi le mouvement des objets qui nous entourent. Donc, appliqué aux planètes, aux étoiles qu'on peut voir dans le ciel. Donc, c'est une science qui est très très ancienne, dès que les hommes ont pu contempler le ciel, ils ont cherché à positionner les objets les uns par rapport aux autres, ils ont vu des figures, les constellations qu'on connaît, et ont cherché à déterminer si ces objets étaient proches ou lointains. Donc ça fait des millénaires que l'astrométrie existe, et on y travaille encore aujourd'hui.
C'est ce qu'on appelait l'astronomie de position dans le temps.
C'est ça, tout à fait.
Alors, avant ce satellite Gaïa qui va nous occuper un petit moment, là, il y a eu quand même des prédécesseurs en matière d'astrométrie. Alors, le tout premier, c'est des gens qui essayaient de faire des catalogues d'étoiles.
Alors, des catalogues d'étoiles, il y en a qui ont été faits dans différents endroits du monde. Hein. Quand on s'intéresse un peu à l'histoire des sciences, on s'aperçoit que des catalogues d'étoiles, il y en a existé en Europe et qu'on connaît bien. Mais également en Chine, des cartes du ciel, on en a retrouvé qui datent de plusieurs millénaires.
Alors le tout premier, c'était Hipparque qui l'avait fait.
Tout à fait. Il a constitué un premier catalogue d'étoiles visible à l'œil nu, puisqu'à l'époque, on n'avait pas d'autres instruments que l'œil pour observer les objets dans le ciel. Et il a fabriqué un premier catalogue qui contenait à peu près un millier d'étoiles, si je me souviens bien. jusqu'à la magnitude 6. Donc la magnitude, c'est la grandeur qu'on utilise pour évaluer la luminosité des étoiles dans le ciel.
Il part que c'était 2 siècles avant Jésus-Christ. 1000 étoiles, ça fait pas mal, parce que, les amis, à l'œil nu, on voit à peu près 6000 étoiles. Et attention, on ne voit pas tout en même temps. Il y en a qu'on voit que l'été, il y en a qu'on voit que l'hiver, puis il y en a qu'on voit tout le temps, puis il y en a qu'on voit jamais. Et pour les voir, celles-là, il faut aller dans l'hémisphère sud. Donc, il part qu'ensuite, bon, ben, il y a eu beaucoup d'autres catalogues. Les Arabes ont fait leur catalogue, les Chinois, les Anglais ont fait un catalogue avec Flamsteed. En France, 1801, Jérôme Lalande sort un catalogue de 50 000 étoiles. Ben là, déjà, on a franchi un pas parce qu'on utilise des lunettes et des télescopes, donc on voit beaucoup plus de choses. Ensuite, ben, on utilise des plaques photo à partir de 1850. Il y a même une idée incroyable, c'est de faire un recensement total de toutes les étoiles présentes dans le ciel. Alors ça, c'était l'histoire, la fabuleuse histoire de la carte du ciel. On s'était partagé le travail en une vingtaine d'observatoires répartis dans le monde entier. Et chacun avait un petit morceau de ciel à compléter, je dirais. Ça a duré 60 ans. Au bout de 60 ans, on a jeté l'éponge parce que c'était pas possible. C'était un travail complètement qui avait été complètement sous-estimé. Et en plus, pas très valorisant pour des astronomes de repérer des étoiles sur une plaque photographique. Mais juste avant Gaïa, il y a eu un autre satellite.
Alors, il y a eu un précurseur à Gaïa qui s'est appelé Hipparcos.
Arrêtons-nous un peu sur Hipparcos, là. Hipparcos, nommé en hommage à Hipparque, bien sûr.
Oui, donc c'est un satellite qui a été imaginé dans les années 70 à peu près, sur un concept imaginé par un astronome français qui s'appelait Pierre Lacroute, qui a posé le concept fondateur de la mission. Et le satellite a été envoyé dans l'espace en 1989. Et il a effectué une cartographie du ciel pendant les 3 années qui ont suivi.
Il y avait un télescope embarqué.
Alors il y avait un télescope embarqué, il y a même 2 télescopes. Le principe de l'astrométrie spatiale, c'est d'observer 2 régions du ciel simultanément, suffisamment éloignées l'une de l'autre, pour pouvoir faire des mesures d'angle entre les étoiles de différentes zones du ciel en même temps. Ça permet d'obtenir des mesures d'angle entre les différents objets qu'on observe avec une extrême précision.
Il était à quel endroit ce satellite ?
Alors le satellite Hipparcos, au début, il devait être envoyé sur une orbite qui était circulaire autour de la Terre. Et malheureusement, le tir n'a pas fonctionné parfaitement et le satellite s'est retrouvé sur une orbite très elliptique, un peu un ovale, un peu allongé, qui a obligé les ingénieurs à de trouver des solutions pour être capable de tirer parti au maximum de la position du satellite. Ça n'a pas empêché la mission d'être un franc succès, puisque le satellite a pu accumuler des données sur à peu près 120 000 étoiles.
Et on a obtenu un catalogue finalement en couplant des résultats peut-être avec d'autres.
Alors voilà, donc on a obtenu des mesures de positionnement des étoiles les unes par rapport aux autres dans le ciel, avec une précision qui n'avait encore jamais été égalée, et combiné à des catalogues qu'on avait construits avec des télescopes au sol, on a pu finalement fabriquer un catalogue de 2 millions d'étoiles, avec des mesures de position et de mouvement qu'on n'avait encore jamais obtenues. Ce qu'on appelait le catalogue Tycho 2, qui a été jusqu'à Gaïa le catalogue le plus précis en termes de mesure de position des étoiles dans le ciel.
Ça donnait lieu à 6000 publications scientifiques, Hipparcos. Alors Hipparcos a donc permis de faire un bond qualitatif impressionnant par rapport à tout ce qui avait précédé. On a quasiment amélioré la précision d'un facteur 100, les amis. Mais le problème avec les astronomes, c'est toujours pareil. Quand on leur donne un instrument qui marche bien, ils l'exploitent et puis aussitôt ils en veulent un encore meilleur. Et celui-là, eh ben, c'est Gaïa. Gaïa. Quand est-ce qu'on a l'idée de faire Gaïa, Benjamin ?
Alors l'idée de Gaïa a germé dans la tête des scientifiques, alors même que son prédécesseur n'avait pas encore fini de travailler, c'est-à-dire au début des années 90 à peu près. Donc Hipparcos a été envoyé en 89 et c'est vers 91-92 que les scientifiques européens ont l'idée de son successeur. parce qu'ils sont un peu frustrés. Forcément, quand on réalise un satellite, il y a des contraintes budgétaires, il y a des contraintes technologiques, on ne fait pas tout ce qu'on veut. Et souvent, les scientifiques qui ont beaucoup d'imagination sont un peu frustrés parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas réaliser tout ce dont ils avaient envie. Et donc, ils ont proposé l'idée d'un satellite qui serait 100 fois meilleur en précision que Hipparcos dès le début des années 90.
Pourquoi on l'appelait Gaïa ?
Alors à l'époque, le concept de Gaïa faisait référence, le nom de Gaïa faisait référence à un principe de mesure qui consistait à observer les étoiles et à combiner leur lumière pour la faire interférer. Donc on parlait d'observation par interférence. Donc le Gaïa était un acronyme qui faisait référence à l'interférométrie. Et puis le concept a évolué. Techniquement, on s'est aperçu que c'était pas possible de le réaliser et on s'est rabattu sur des mesures et par photographie avec des capteurs CCD, des capteurs numériques. Mais on a gardé le nom de Gaïa parce que finalement, ça fait référence à la mythologie grecque, Gaïa étant la mère de tous les dieux, celle qui est à l'origine de tout, et l'analogie fonctionne très bien puisque l'astrométrie est le socle sur lequel repose toute la cosmologie moderne. On ne peut pas faire de l'astronomie ou de l'astrophysique ou de la cosmologie sans avoir une petite idée de l'endroit où se trouvent les objets qu'on observe.
Gaïa, ça fait aussi référence à la Terre, les amis. Gaïa, la Terre, ça a donné en français géo, tout ce qui commence par géo, géographie, géométrie, géologie, géostationnaire, etc. Donc, les premières études ont démarré, Benjamin, dans les années 95. Quoi. L'idée avait déjà germé, mais il y a pas mal d'étapes, je pense, à franchir avant de commencer, même avant de commencer.
Tout à fait. Donc les scientifiques travaillent entre eux, en équipe, commencent à échanger des idées, commencent à écrire des équations, établissent le principe même de la mission. Et ensuite, ils vont soumettre la proposition de la mission scientifique auprès de l'Agence spatiale européenne, qui doit faire son choix parmi plein de propositions faites par tous les scientifiques du monde entier. Et le concept de la mission de Gaïa a été retenu en 2000. Donc ensuite a commencé une phase de travail entre les scientifiques et les industriels qui étaient en mesure de fabriquer le satellite. Donc à l'époque, c'était Thales et Astrium, qui est devenu Airbus aujourd'hui. Et au terme de travaux de pré-études, l'Agence spatiale a organisé une compétition que Airbus a remportée en 2006 pour commencer la construction du satellite.
2006, début de la construction.
Tout à fait. Et la construction du satellite va durer 7 ans.
Oui. Oui, les amis, vous voyez, 7 ans avant le lancement, donc plus 10 ans, ça fait à peu près 17 ans pour Gaïa. Et c'est toujours comme ça, hein. C'est très souvent comme ça pour les satellites. Hein. On fait des études préliminaires, attribution d'un budget pour des études un peu plus poussées, puis après réalisation du satellite. Mais concrètement, ça veut dire que quand un satellite est lancé, au moment du lancement, il part avec une technologie qui date de 10 à 15 ans.
Oui, c'est ça. C'est même pire que ça, puisque quand Gaïa va terminer ses observations et que le catalogue va être publié, le catalogue dans sa version la plus aboutie va être publié, on va être en 2022, c'est-à-dire 30 ans après que l'idée a germé dans la tête des scientifiques.
C'est l'objectif d'une carrière quasiment pour les responsables de Gaïa.
Alors oui, les responsables, il y en a parfois plusieurs. Hein. Les plus courageux restent longtemps. Il y a effectivement aujourd'hui encore des scientifiques qui partent en retraite et qui ont commencé à travailler sur Gaïa
et qui ont fait
Hipparcos avant et qui ont fait quasiment toute leur carrière sur deux missions d'astrométrie.
Alors l'objectif de Gaïa, c'était bien sûr d'améliorer la précision d'Hipparcos.
Oui, d'un facteur 100 à peu près. Hein. Donc pour se représenter l'ordre de grandeur de la précision de ces engins-là, il faut imaginer que la précision de l'œil humain se mesure en fractions de degrés d'angle. Donc un œil humain est capable de discerner deux points côte à côte espacés d'une minute d'arc. Alors, une minute d'arc, ben, c'est 1 degré divisé par 60 parties égales. Les minutes d'arc, on va ensuite les subdiviser en secondes d'arc, donc il y a 60 secondes d'arc dans une minute. Et Hipparcos, sa précision, c'est l'ordre de grandeur, c'était le millième de seconde d'arc. Et Gaïa, sa précision de mesure ultime, ça va être encore 100 fois plus petit, ça va être la dizaine de micro-arcs-secondes. Pour se faire une idée, c'est à peu près le diamètre qu'aurait une pièce de monnaie vue sur la Terre à la surface de la Lune.
C'est ça, c'est l'angle sous lequel on verrait une pièce de monnaie de 1 euro, voilà, qui serait sur la surface de la Lune.
À 400 000 km.
Voilà. Gaïa. L'instrument, ben, figurez-vous les amis que je l'ai sous les yeux, parce que dans le bureau de Benjamin où on enregistre l'émission, il y a un petit Gaïa miniature là sur son bureau. Alors, bon, vous ne le voyez pas, mais c'est normal, on est à la radio, mais je vais vous le décrire. Ça ressemble un peu à un champignon qui sera à l'envers avec le toit du champignon, enfin le corps du champignon, et puis le pied du champignon. Alors ce corps du champignon, ça fait quelle dimension? Ça a l'air très mince.
Alors ça a l'air très mince, quand on voit en fait le chapeau du champignon, c'est un pare-soleil. C'est un pare-soleil qui n'est pas très épais, qui est constitué de deux membranes parallèles et qui forme un disque de 10 mètres de diamètre.
10 mètres de diamètre. Alors, quand on a lancé, ça ne pouvait pas tenir dans une fusée, 10 mètres de diamètre.
Parce qu'une fusée, c'est au maximum 4 mètres de diamètre. Donc, il a fallu trouver un moyen de replier le pare-soleil pour qu'il puisse se déployer une fois que le satellite arrive dans l'espace, à la manière d'une rose, des pétales de rose qui se déploient.
Ah oui. Et alors, donc, après, il y a le pied du champignon, qui est assez trapu, d'ailleurs. Ça ressemble à... hexagone, une espèce d'hexagone, ça fait quelle dimension ça?
Alors, le pied du champignon, c'est un cylindre qui fait à peu près 4 mètres de diamètre par 4 mètres de long, 4 mètres de haut.
Et qu'est-ce qu'il y a dans ce pied?
Et alors, dans ce pied, il y a essentiellement deux choses. Dans sa partie inférieure qui repose sur le pare-soleil, il y a ce qu'on appelle le module de service, qui contient toute l'électronique de bord, qui contient les batteries électriques, qui contient les réservoirs pour pouvoir propulser le satellite et l'emmener à sa position et le maintenir sur son orbite. Et au-dessus de ce module de service, on trouve ce qu'on appelle la charge utile du satellite, c'est-à-dire l'instrument lui-même.
C'est-à-dire les télescopes.
Alors voilà, l'instrument, il est constitué de deux télescopes qui envoient leur lumière sur un même plan focal unique, sur lequel viennent se superposer la lumière des étoiles qui viennent de deux directions différentes.
Et ça ne se mélange pas?
Ah si, ça se mélange complètement. Et il a fallu inventer un système pour être capable, quand on détecte une étoile et qu'on en fait la photographie, d'être capable en permanence de savoir de quel télescope elle provient. Mm-hmm. Donc c'est une des prouesses qu'on a réalisées.
Et ça a été fabriqué à quel endroit tout ça?
Alors, Gaïa, c'est un satellite qui a été fabriqué par beaucoup de gens. Il y a 16 pays européens plus les États-Unis qui ont participé à la construction de cet engin. Le pare-soleil, par exemple, a été fabriqué en Espagne. Les capteurs numériques du plan focal ont été fabriqués en Angleterre. L'ossature du télescope lui-même, qui est en céramique, en carbure de silicium, a été fabriquée en France, pas très loin d'ici, par une entreprise, Boustec, qui est basée pas très loin de Tarbes.
Qui est à Bazé, exactement. Voilà. C'est à côté de Tarbes. Et c'est, tout ça, ça a été assemblé quelque part, hein?
Alors, ça a été assemblé à Toulouse, dans l'usine d'Airbus, qui fabrique des satellites. Tous les éléments ont été... mis au même endroit, assemblé, testé à Toulouse, avant ensuite d'être envoyé dans un caisson de l'autre côté de l'Atlantique, à Kourou, pour être envoyé dans l'espace par un lanceur russe, un lanceur Soyouz.
Donc, il y a des spectromètres aussi.
Alors, Gaïa contient en fait, dans son plan focal, trois instruments. Il y a ce qu'on appelle l'astromètre, ensuite il y a un photomètre, et il y a un spectromètre. Donc le satellite balaye le ciel en permanence en tournant sur lui-même, et les étoiles traversent le plan focal en passant d'abord sur l'astromètre pour qu'on prenne en photo les étoiles à plusieurs reprises pour être capable de mesurer les angles qui les séparent les unes des autres, être capable de mesurer leur position dans le ciel. Et ensuite, les étoiles traversent deux filtres de couleur rouge et bleu, respectivement, qui constituent le photomètre, pour être capable de mesurer quelle est la quantité de bleu, quelle est la quantité de rouge contenue dans les étoiles. Ça, c'est important pour deux choses. D'une part, corriger des aberrations chromatiques de l'optique du satellite, et d'autre part, avoir quand même une information sur la physique des étoiles, savoir un peu quelle est déjà leur carte d'identité, être capable de faire de la classification des étoiles à partir de ces mesures photométriques. Et enfin, le dernier instrument, qui est le spectromètre, à haute résolution, autour des raies d'absorption du calcium, qui vont permettre de mesurer par effet Doppler la vitesse radiale des étoiles, c'est-à-dire à quelle vitesse est-ce qu'elles s'éloignent ou qu'elles se rapprochent de nous.
Voilà, c'est compliqué tout ça. Il y a une caméra qui... Quelle est la précision de cette caméra? Combien par rapport à un appareil photo qu'on utilise habituellement.
Dans le concept, ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve dans les appareils du commerce, hein, sauf que là, ben, des capteurs numériques, il y en a un très très grand nombre. Chaque petit capteur fait à peu près 2 cm par 4 cm, sauf que dans le cas de Gaïa, il y en a plus d'une centaine. Le tout constitue une surface sensible qui contient près d'un milliard de pixels, répartis sur les 3 instruments dont je viens de vous parler.
Un milliard de pixels, les amis. Et je suppose qu'il ne faut pas de variation, parce que si on veut vraiment de la précision, il ne faut pas de vibration, il ne faut pas de variation de température, parce que tout peut...
Alors voilà, ce qu'il faut, c'est que les images soient le plus nettes possible. Pour qu'elles soient nettes, il ne faut pas bouger. Donc le satellite est contrôlé en permanence dans sa manière de tourner autour de son axe, lequel axe tourne aussi lui-même dans un mouvement de précession, de telle sorte que le satellite est capable de balayer la totalité de la surface du ciel en à peu près 2 mois. Et pour être sûr que rien ne bouge à l'intérieur du satellite, ben on a fait en sorte qu'il n'y ait aucun mécanisme.
Il n'y a aucune pièce mobile dans le satellite.
Aucune. Les pièces mobiles qui ont été, par exemple, utilisées pour le déploiement du pare-soleil au début de la mission, quand le satellite est arrivé dans l'espace, ont ensuite été bloquées. Il y avait des mécanismes aussi, des bipodes, qui permettaient de supporter le poids du satellite et de l'instrument quand on était sur Terre. Mais une fois qu'on arrive dans l'espace, on n'a plus besoin d'avoir des choses aussi robustes, parce qu'il n'y a plus de gravité. Donc là aussi, on les a débloqués. Et l'instrument ne tient à la partie inférieure du satellite que par des 6 petites allumettes.
Et pour la température, c'est pareil. Il doit y avoir des variations infimes de température.
Alors, le rôle du pare-soleil, justement, c'est de garantir que l'instrument va être dans une zone thermiquement très stable. Il faut que la stabilité de la température de l'instrument soit autour du millionième de degré.
Millionième de degré, les amis. Un degré divisé par 1 million.
Voilà. Et ça, on atteint une température à peu près à l'ombre du pare-soleil de l'ordre de -110 degrés Celsius dans l'espace. Et on utilise également des matériaux qui font que si jamais il y a eu une dilatation entre la température que le satellite pouvait avoir quand il était sur Terre et la température qu'il atteint quand il est dans l'espace, on a fait en sorte que tout soit dans le même matériau, qui est le carbure du silicium, qui est un matériau qui est très robuste et qui peut se déformer de manière égale. C'est-à-dire que finalement, le satellite s'est dilaté en refroidissant en arrivant dans l'espace, mais garantit toujours un bon alignement des optiques et une bonne qualité d'image.
Et il faut transmettre aussi les données sur la Terre.
Ah oui, et puis il faut en transmettre beaucoup parce que le satellite, on l'a conçu de telle sorte qu'il soit capable d'enregistrer chaque seconde à peu près 10 000 étoiles. Donc toutes les secondes, il est capable, si les zones du ciel sont très denses, de photographier 10 000 étoiles.
Et s'il tourne, alors comment il transforme? Il y a des antennes, quoi?
Alors, puisqu'il tourne, il enregistre en permanence, c'est comme s'il enregistrait un ruban continu. D'étoiles qui défilent devant le télescope du satellite. Et tout ça est numérisé par des capteurs photosensibles, enregistré dans une mémoire d'ordinateur à bord du satellite et transmis par une antenne sur Terre. Mais là où c'est compliqué, c'est que normalement, il faut que l'antenne reste en permanence dirigée vers la Terre pour transmettre les données à un débit qui est à peu près 300 fois supérieur à ce que Hipparcos, son prédécesseur, avait fait. On est de l'ordre de 8 mégabits par seconde. Et il faut que, alors que le satellite tourne sur lui-même, l'antenne soit toujours dirigée vers la Terre. Donc c'est un peu compliqué. Et on n'a pas le droit de faire une antenne qui bouge avec un moteur. Donc ce qu'on a conçu, c'est une antenne, plusieurs petites antennes, posées sur un cône qui repose sur la partie inférieure du satellite, exposée au soleil, tournée vers la Terre en permanence, de telle sorte que si une petite antenne ne voit plus la Terre, bah, c'est sa voisine qui va prendre le relais pour transmettre les données vers la Terre.
Oula, fallait le trouver ça. Bon les amis, dans la deuxième partie de l'émission, on a parlé maintenant du satellite lui-même, on va voir sa mise à poste et puis les premiers résultats surtout. A tout de suite dans la deuxième partie de l'émission.
Tu la voyais pas comme ça ta vie? Pas d'attaché caisse quand t'étais petit. Ton corps enfermé, costume crétin. T'imaginais pas, je sais bien. Moi aussi, j'en ai rêvé des rêves, tant pis. Tu la voyais grande et c'est une toute petite vie. Tu la voyais pas comme ça l'histoire. Toi t'étais tempête et rocher noir. Mais qui t'a cassé ta boule de cristal? Cassé tes envies rendues banales. T'es moche en moustache, en laide sandales. Tes cloches en bancal, petit caporal de centre commercial. Tu la voyais pas comme ça, frérot. Doucement ta vie t'a mis KO. voyez pas comme ça ta vie. Tape au capotage et salsifie. On va tous pareil, moyen, moyen. La grande aventure, Tintin. Moi aussi j'en ai rêvé des cornemuses. Terminé maintenant, dis-moi qu'est-ce qui t'amuse. Tu la voyais pas ici l'histoire. Tu l'aurais bien faite au bout de la Loire. Mais qui t'a rangé à plat dans ce tiroir. Comme un espadon dans une baignoire. T'es moche en week-end, t'es mioche qui traîne. Loupé capitaine, bateau de semaine. D'une drôle de fête foraine. Tu la voyais pas comme ça frérot. Doucement ta vie t'a mis KO. T'avais mis tant quand tu te voyais. Et ce rêve là on l'a tous fait. Dans tes premières et premiers chapeaux. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Tambour binaire et premier sabot. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Dans son quimper ou landerneau. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau.
Si vous nous rejoignez sur 95.10, les amis, bienvenue, bienvenue dans notre émission d'astronomie avec notre invité aujourd'hui, Benjamin Massard, qui nous parle du satellite Gaïa, un satellite qui fait de l'astrométrie. On en a parlé dans la première partie de l'émission et maintenant, dans notre deuxième partie, on va voir un peu les choses du point de vue opérationnel. Comment ça s'est passé? Alors, quand est-ce qu'on l'a lancé, Benjamin, ce satellite?
Le 19 décembre 2013.
D'où?
D'où? Depuis Kourou, depuis la base européenne de lancement de satellites, à bord d'un lanceur russe, Soyouz, et le tout étant piloté depuis le centre de contrôle de l'Agence spatiale européenne à Darmstadt, en Allemagne.
Darmstadt, c'est là qu'étaient, les amis, ceux qui pilotaient la mission Rosetta aussi.
Aussi, également.
C'est là qu'il y a le centre de contrôle de tout ce qui concerne l'Agence spatiale européenne. Et donc, lancement, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors une fois que le satellite est arrivé dans l'espace, il a été mis sur ce qu'on appelle une orbite de transfert pour être envoyé autour d'un point d'équilibre particulier qu'on appelle le point de Lagrange L2, qui fait partie des endroits où on peut mettre des satellites en orbite autour d'un point fictif. Il n'y a pas réellement d'objet autour duquel ils tournent. Mais l'avantage, c'est qu'ils sont à 1,5 million de kilomètres derrière la Terre, au-delà de la Terre, dans la direction opposée au Soleil. C'est un endroit où il fait froid, où la stabilité thermique est garantie. C'est aussi intéressant parce que on subit pas les éclipses de la Terre. Donc les panneaux solaires du satellite sont éclairés en permanence. Donc c'est l'endroit idéal pour toutes les missions qui veulent observer le ciel profond.
Donc vous voyez les amis, le satellite Gaïa, il va accompagner la Terre quand elle fait le tour du Soleil en étant derrière elle.
Tout à fait.
Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il arrive à poste. Bon, je suppose qu'il y a un étalonnage, un petit moment où on va voir comment il fonctionne, ce satellite.
Ah, tout à fait. C'est ce qu'on appelle la calibration en vol. Ça dure 6 mois. Donc, pendant janvier jusqu'à juillet 2014, eh bien, on a allumé l'instrument. On a fait les premières acquisitions d'images. On a fait le focus des télescopes. Hein, on a fait la mise au point. On s'est assuré que les images étaient les plus fines possibles. Et puis, on a aussi constaté des premiers quelques surprises qui étaient pas forcément prévues. On a vu notamment assez rapidement que l'instrument perdait sa capacité d'observer des objets faibles. On s'est rapidement aperçu qu'en fait, il y avait du givre qui était à bord du satellite et qui venait se déposer sur les optiques qui étaient très très froides. Et comme on a conçu le satellite pour qu'il puisse être réchauffé par endroits, on a été en mesure de faire en sorte de retirer le givre des optiques et cette vapeur d'eau résiduelle qui avait été embarquée hein, depuis la Terre a fini par s'évaporer au fil du temps. Donc maintenant, ce problème-là a été résolu.
Bon, des petits problèmes de jeunesse qui ont été...
Des problèmes de jeunesse, oui, tout à fait. Mais ça, c'est inévitable, hein, parce qu'on construit des engins qui sont tellement complexes qu'on ne peut pas forcément tout prévoir. L'avantage aussi, c'est qu'on a toujours des parades pour essayer de contrebalancer ou de trouver des solutions pour contourner les petits problèmes qu'on peut découvrir une fois qu'on est en orbite.
Je suppose que c'est l'angoisse pour les gens qui opèrent le satellite, hein, quand ils découvrent ce genre de problème.
Alors surtout ceux qui ne connaissent pas l'engin, oui, les scientifiques notamment, ont pu avoir un stress quand ils ont vu qu'il y avait des images qui étaient un peu dégradées au début. Mais en général, on est en très étroite collaboration avec eux, on échange rapidement sur les solutions qu'on peut envisager et on n'a pas tardé à trouver les solutions qui s'imposaient.
Alors, les données que produit Gaïa, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Elles sont rapatriées sur la Terre.
Alors, les données, donc c'est un volume absolument gigantesque de données qui sont recueillies sur Terre. Aujourd'hui, on est à avoir accumulé à peu près plus de 70 milliards de petites images d'étoiles.
70 milliards.
70 milliards, oui. Après presque un an et demi de mission scientifique. Ces données sont transmises et recueillies par des très grandes antennes qui font à peu près 30 mètres de diamètre, qui sont situées à différents endroits de la Terre. Il y en a une en Argentine, une autre en Espagne, une autre en Australie, qui se relaie pour télécharger en permanence les informations que le satellite accumule. Et ensuite, ces données-là sont enregistrées dans des centres de calcul qui sont répartis en 6 endroits en Europe. Chaque centre de calcul étant responsable de traiter une partie des données du satellite pour fabriquer petit à petit l'intégralité du catalogue.
Combien de personnes travaillent sur Gaïa
alors ? Sur Gaïa, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé. Hein, dans la partie recherche, on compte à peu près 450 chercheurs et ingénieurs de recherche qui ont élaboré les algorithmes qui exploitent les données transmises par le satellite. Côté satellite, on a été au pic d'activité jusqu'à 400 ingénieurs et techniciens pour fabriquer le satellite lui-même.
Bon, Benjamin, alors les résultats maintenant ?
Les résultats, ils ont commencé à arriver déjà hein, assez rapidement. Quand on a calibré l'instrument, on a commencé à engranger des milliards et des milliards de photographies. Donc aujourd'hui, il y a une première version du catalogue qui est sortie le 16 septembre 2016, qui contient un peu plus d'un milliard d'objets, mais avec un niveau de précision qui est préliminaire, parce qu'on n'a pas encore exploité l'instrument au maximum de son potentiel. Et parmi tous ces objets, on a une très grande variété hein, d'objets célestes. Ce n'est pas que des étoiles que Gaïa observe. Gaïa observe sans le savoir tout ce qui ressemble à un objet ponctuel. Alors ça peut aussi bien être un astéroïde dans le système solaire, qu'une étoile de la Voie lactée, qu'une étoile dans une autre galaxie, qu'éventuellement une comète qui n'a pas encore sa chevelure, ou même carrément des bouts de nuages complexes situés dans des nébuleuses à proximité du Soleil ou dans des galaxies voisines.
Donc il attrape tout.
Il attrape tout ce qu'il peut.
Tout ce qu'il peut. Et il peut beaucoup.
Et il peut beaucoup parce que les enjeux sont importants, parce que derrière, en étant capable de cartographier la position non seulement sur la surface du ciel telle qu'on le voit, mais aussi avec la troisième dimension, la dimension de la profondeur, c'est une cartographie tridimensionnelle que Gaïa va permettre de reconstituer autour du voisinage du Soleil. Même si ça représente que 1% de la population de la Voie lactée, 1 milliard d'étoiles, c'est quand même suffisant parce qu'on va être capable de sonder la position d'étoiles qui sont proches du centre de la galaxie comme proches de sa périphérie. Donc on a vraiment une vue et un sondage profond de la population de la galaxie. Donc on va vraiment être capable de faire de l'astronomie galactique, savoir un peu comment une galaxie fonctionne.
On pourra faire une carte détaillée de la galaxie en 3D.
En 3D, avec ça, on va être capable aussi de confirmer des théories qui essayent d'expliquer la présence de matière noire. Donc on va être capable de cartographier la matière noire dans le voisinage du Soleil. On va aussi être capable de faire ce type d'exercice parce que Gaïa est en mesure d'observer des étoiles individuelles sur des galaxies voisines, comme la galaxie d'Andromède, comme les nuages de Magellan, par exemple. C'est vraiment un programme extrêmement vaste qui nous attend.
Et on peut également On peut également voir la vitesse des mouvements des étoiles. Les étoiles bougent. Hein,
parce
on
que...
ne le voit pas, nous, parce que c'est très, très, très faible, bien sûr. Mais avec un instrument de très grande précision, on peut le voir, ça.
Tout à fait. C'est le principe même de la mesure. Il se trouve que pendant toute la durée de sa mission, qui va s'étaler entre 5 et 9 ans, si tout se passe bien, Gaïa va observer plusieurs fois, en moyenne 80 fois, chaque objet. Donc on va être capable de reconstituer finalement le film, le déroulement de la trajectoire des objets qu'on aura observés sur ces 5 années. Alors sur cette échelle-là, les étoiles ne se déplacent pas énormément dans le ciel, mais c'est des mouvements qui sont suffisamment perceptibles par le satellite pour qu'on soit capable de reconstituer la trajectoire des objets en 3 dimensions. Et à partir de là, être capable de prédire où seront les étoiles les unes par rapport aux autres dans le futur comme dans le passé. Et il y a notamment un projet qui vise à réexploiter des vieilles mesures qui ont été faites au début du siècle avec des plaques photographiques. Et tout à fait en introduction de l'émission. Et d'être capable de réexploiter ces informations-là pour être capable de reconstituer le film du mouvement des étoiles sur plus d'un siècle.
Voilà. Alors oui, on peut dire que par exemple, par rapport à Hipparchos, Hipparchos a fait la cartographie de Paris. On peut dire que Gaïa a fait la cartographie de la France. Ça vous donne une idée de l'échelle, les amis. Notre émission va se terminer quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Bon, est-ce qu'on peut faire d'autres choses? Est-ce qu'il y a un autre Gaïa dans les cartons?
Alors, il est question d'un autre Gaïa. Il se reproduit la même chose qui s'était produit il y a 20 ans, au moment où Hipparchos venait de commencer sa mission. Voyant la réussite de Gaïa et les données prometteuses qu'il est en train d'engranger, les scientifiques commencent à réfléchir à un successeur qui travaillerait dans une autre gamme de couleurs pour être capable de sonder un peu plus profondément les étoiles de la galaxie. Donc ce serait sans doute un Gaïa, mais dans l'infrarouge, là où aujourd'hui l'astromètre de Gaïa fonctionne essentiellement dans le visible.
Un Gaïa++ alors?
Ce serait un Gaïa++, tout à fait.
Voilà, ben les amis, notre émission se termine. Benjamin, merci de nous avoir consacré un petit peu de temps.
C'était un grand plaisir.
Ben, un plaisir partagé. Et les amis, à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
À la découverte du ciel, une émission proposée et présentée par Alain sur la voie du Béarn 95.10.
Radio pour mon territoire, en Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, ce sont nos 83 radios associatives, une pour chaque territoire et toutes pour la grande région.
Pour nous, entrepreneurs, une radio locale, c'est une opportunité de communiquer directement avec la population de notre zone. Les audiences ciblées et les coûts réduits de ces antennes n'en sont pas moins synonymes de professionnalisme, de qualité et surtout de résultats. Nous avons de très bons retours grâce à eux. Ils sont un maillon essentiel de notre communication locale.